Vivez le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, depuis le stand du gouvernement, en partenariat avec Radio Territoria.
Bonjour, bienvenue à tous, on est toujours en direct ici au congrès de Nantes, du congrès USH bien sûr. On va parler du système d'information des aides à la pierre, ici avec Radio Territoria sur le stand du gouvernement. Nos invités, trois experts, Benoît Chantoiseau, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Benoît, vous êtes chef de bureau du développement du logement locatif social et intermédiaire à DGLN, bienvenue à vous.
Merci.
À vos côtés, Christine Bordier, bonjour Christine.
Bonjour.
Vous êtes chef de bureau également des systèmes d'information Habitat et Construction.
Tout à fait.
Bonjour à la DGLN. Et enfin, Nadia Haït-Braham. Bonjour Nadia.
Bonjour.
Chef de la mission Territoire et Habitat à la DHUP DGLN.
Merci.
Bienvenue. Alors, pour poser le débat de ce qu'on vous appelait le SIAP, parce qu'il y a beaucoup d'acronymes, bien sûr, dans les services du gouvernement, le système d'information des aides à la pierre. Benoît, un petit flashback d'où ça vient et qu'est-ce que ça représente exactement?
Oui, merci. C'est vrai qu'on a beaucoup de sigles. Donc, le système d'information des aides à la pierre, c'est finalement le nouveau logiciel qui doit permettre aux instructeurs, donc aux instructeurs en DDT et chez les collectivités délégataires, d'instruire les demandes d'agrément, les demandes de financement du logement social. C'est un outil qui vient d'être lancé, qui a été lancé en avril, qui succède à un outil qui s'appelait Galion, qui était déjà un acronyme que j'ai perdu, qui était un outil qui avait 10 ans, qui méritait d'un petit coup de jeune, qui était un outil qui était très permissif. On s'est parlé hier de rénovation énergétique, où je vous ai rappelé l'enjeu de connaissance. On avait avec Galion ce problème d'enjeu de connaissance, d'informations qui n'étaient pas toujours obligatoires, qui étaient un peu mal remplies. Donc on a souhaité donner un coup de jeune, un petit coup de jeune à nos SI avec le SIAP, le SIAP, et de construire une plateforme unique d'échange partagée avec l'ensemble des acteurs du logement social qui interviennent dans la production et dans l'agrément, c'est-à-dire quelque chose pour les services de l'État, bien sûr,
oui.
Pour les collectivités, pour les bailleurs aussi, et finalement un SI construit autour de la ligne de vie. On est très attaché à la ligne de vie du logement, c'est-à-dire quelque chose qui permettrait pour l'ensemble des acteurs d'avoir une vision claire sur une opération de... Très simplement, où est-ce qu'on en est? C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur une opération qui a été imaginée, programmée par le bailleur? Est-ce que la collectivité est au courant? Est-ce qu'on est dans un état programmé? C'est-à-dire, finalement, le bailleur et la collectivité et l'instructeur se sont mis d'accord? Est-ce qu'on est sur l'engagement? Est-ce qu'on a vraiment commencé à vraiment agréer formellement? Et puis, les étapes après qui nous manquaient un peu plus. Aujourd'hui, on sait combien on a d'agréments. Les étapes qui nous manquent aussi, finalement... Jusqu'à la livraison du logement,
oui.
Est-ce que les logements sont effectivement livrés? Parce que on parle beaucoup du nombre d'agréments, mais ce qui nous intéresse vraiment dans la politique publique, c'est bien un logement qui est livré et qui peut être habité.
Oui, on parle beaucoup de cycle de vie dans justement le bâtiment, la construction. Là, l'idée, c'était d'avoir effectivement de l'agrément finalement à la livraison, la traçabilité pratiquement pure et parfaite, où on en est, et surtout un outil collaboratif, c'est-à-dire que tout le monde peut regarder et voir à un moment T, en direct, où on en est sur les projets.
Absolument, et je pense qu'il faut bien... avoir ça en tête. On a aussi envie de construire le SIAP comme finalement une première base sur laquelle on a envie de venir construire pour que, alors je m'avance peut-être un peu sur la suite, mais quelque chose sur lequel on va avoir envie de venir construire dans un principe de dites-le-nous une fois. On demande beaucoup de choses aux bailleurs et on a envie, on sait que c'est pas toujours très agréable de répondre à nos enquêtes, on a envie de garder les informations peut-être plus simplement et vraiment d'être dans cette logique de dites-le-nous une fois, et une fois que vous nous l'avez dit, on vous le demandera plus. Ça nous semble quand même assez naturel.
C'est vrai que c'est assez irritant aussi pour certains, pour les partenaires de devoir refournir ces informations. On a l'impression qu'on remplit des formulaires, même si c'est électronique, un petit peu ad nauseam. Benoît Chantoiseau, juste pour donner une idée de la volumétrie, qu'est-ce qu'on a comme type de données, combien on a de logements ou de livraisons
aujourd'hui, on a, pour vous donner une idée, on a de l'ordre de 6 000 à 9 000 opérations par an qui se font en année courante. Donc le SIAP, aujourd'hui, c'est l'ensemble de ces opérations qui ont été faites par le passé. Pour l'année 2023, vous savez qu'on a des sujets de production et de relance de la production. On est aujourd'hui à date sur un SIAP qui est pleinement opérationnel, c'est-à-dire qui permet de programmer, qui permet d'engager, qui permet de payer les bailleurs. Donc Le CIAP est pleinement opérationnel. Aujourd'hui, on a 10 000 logements qui sont agréés. On a de l'ordre de 50 à 60 000 logements qui sont dans les tuyaux, qui sont en cours d'instruction, en cours de discussion locale entre les instructeurs, entre les collectivités, avec les bailleurs. Et tout ça représente de l'ordre de 5 à 6 000 utilisateurs. Donc, c'est vraiment un saut aussi pour nous en termes d'assistance, etc., etc.
Un saut quantitatif. Et alors, justement, lancement avril de cette année, 2023, est-ce que entre l'ancien système, les deux systèmes cohabitent où tout le monde, Christine Bordier, aujourd'hui est passé sur le CIAP, il a été adopté, ou est-ce qu'il y a encore des réticences et des gens qui restent sur l'ancien système? On sait que la passation n'est jamais évidente.
Non, on est bien passé à une utilisation exclusive du CIAP.
D'accord.
L'ancien système reste consultable, mais plutôt pour l'historique des opérations, pour pouvoir accéder à l'historique. Mais toute la programmation dès cette année se fait sur le CIAP.
D'accord. Je rappelle que vous êtes chef de bureau des systèmes d'information, donc Habitat Construction. Dans la démarche, justement, dans le déploiement, on va dire, de cette nouvelle IT, qu'est-ce qui a été le plus compliqué? Quels ont été peut-être les freins, les blocages, ou peut-être que vous rencontrez encore?
Un des sujets de difficulté ou sur lequel on a beaucoup été contacté sur l'assistance, c'est les questions de reprise des données, puisqu'on reprend des données d'un ancien système, donc qui était, comme l'évoquait Benoît, conçu différemment et un peu plus permissif. Donc tout le côté reprise des données amène à reformater tout ce qui était dans l'ancien système et à le mettre au nouveau format du CIAP.
Ah, ça veut dire que les utilisateurs avaient leurs habitudes, finalement. Ils savaient utiliser l'ancien système. C'est jamais évident de se former. Comment s'est passée la transition? Est-ce qu'il y a eu de la formation, de la pédagogie sur ce nouvel outil?
Oui, je réponds peut-être, je te laisserai. Le principe de la formation repose sur des formateurs relais. En fait, on a fait un déploiement local de la formation en formant des formateurs relais dans chaque région qui vont eux-mêmes pouvoir aller former et les services de l'État et les délégataires et bailleurs.
D'accord. Qu'est-ce qui a déjà été réalisé Benoît, là, qu'est-ce qu'on peut trouver? Donc, vous l'avez dit, la reprise de l'historique, certes. Le point d'avancement, peut-être en mode collaboratif. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve comme autre type d'information?
On trouve principalement l'intégralité des informations sur les bailleurs, sur les opérations. Je vais peut-être juste revenir sur cette question de la formation, parce que c'est vraiment un chantier qui a été primordial pour nous, long. Quand même, il faut le dire, on a commencé, je crois, en juin 2022 pour un outil qui n'ouvrait finalement qu'en avril 2023.
Oui, près d'un an à l'avance.
Un an avec un système, comme tu l'as dit, Christine, de formation relais, c'est-à-dire qu'on a formé une multitude de personnes pour aller ensuite répondre la bonne parole auprès de nos 5000 utilisateurs. Et dire aussi qu'on est vraiment dans un système. On avait cette habitude côté État de concevoir des SI dans un mode qui n'était pas forcément très agile, et là on se place vraiment dans un système d'amélioration continue, c'est-à-dire que on a pris en compte à l'issue de nos périodes de test qu'on a eu à l'été 2022 des retours qu'on a pris en compte, et finalement depuis qu'on a ouvert l'outil on est toujours dans cette démarche d'amélioration continue, oui. De prise en compte de toutes les remontées. Donc le sujet des reprises de données, la raison, c'est un vrai gros sujet, parce que finalement tous les utilisateurs s'attendent à retrouver leur petit, mais on est aussi sur des questions d'ergonomie, des questions de faciliter la vie, de recherche. Est-ce qu'un instructeur peut récupérer instantanément toutes ses opérations? Est-ce qu'un bailleur peut suivre l'avancée de l'ensemble de son parc? C'est là-dessus qu'on avance aujourd'hui, et c'est les données qui sont disponibles et qu'on veut mettre à disposition le plus vite possible à tout le monde.
Donc le fond, c'est-à-dire la pertinence et s'assurer que toutes les données soient là, mais aussi la forme, ce qu'on appelle l'UX, l'expérience utilisateur, avec des remontées, des allers-retours. C'est vrai qu'on est tous habitués dans un monde digital, alors des applications qui fonctionnent très bien, qui sont même presque addictive. Alors l'enjeu, c'est pas que tout le monde passe énormément de temps sur le CIAP, mais effectivement que ça soit facile quand même à utiliser. Christine, c'est un enjeu aussi, ça, que les gens puissent le prendre en main assez facilement et puissent l'utiliser au jour le jour de manière très naturelle.
Oui, tout à fait, c'est un enjeu. On prend en compte toutes les demandes qui sont formulées par les utilisateurs. On les priorise aussi, parce que la priorité de cette année, c'est quand même de pouvoir réaliser la programmation de l'année 2023. Donc, c'est-à-dire de vraiment pouvoir financer les logements de cette année. Mais effectivement, toute évolution qui va pouvoir simplifier le parcours utilisateur est prise en compte et pourra être développée. Voilà, on essaye de développer une version chaque mois, en fait.
Donc, ah oui, quand même.
Voilà, avec des adaptations chaque mois qui prennent en compte à la fois les remontées d'anomalies des utilisateurs, on en a quelques-unes, et puis aussi les souhaits d'évolution et de facilitation du parcours.
Bien sûr, là, on compte sur vous évidemment pour débugger, hein, s'il y a des bugs dans l'application, qui n'en a pas évidemment. Nadia Ibrahim, je me tourne vers vous justement, vous qui êtes chef de projet, chef de la mission Territoire et Habitat à la DHUP. Justement, dans ce projet, comment vous êtes intervenu et puis on va après s'intéresser à la suite effectivement des prochaines étapes du SIAP.
Oui. Donc moi j'ai intégré le SIAP par la suite pour prendre en compte un chantier à part entière, c'est celui des délégataires. Comme D'accord. vous le savez, le SIAP actuellement gère tout ce qui est aide État, donc au titre du FNAP, du Fonds National d'Aide à la Pierre. Il y a 115 délégataires en France avec des fonctionnements différents, donc qui donnent leurs propres aides. Certains ont développé leurs propres outils, d'autres fonctionnent avec des tableaux Excel, enfin voilà. Et donc, moi, je suis là un petit peu leur porte-voix pour construire un outil qui, ce sera une brique supplémentaire dans le SIAP pour leur permettre à la fois de traiter les aides FNAP et leurs aides propres par le biais d'un outil unique.
D'accord.
Et donc, dans ce cadre, donc, le chantier a été lancé récemment, ça fait que 2 mois maintenant, et l'objectif, c'est de livrer un module opérationnel dès le premier semestre 2024. Donc là, on va fonctionner en mode agile avec quelques délégataires. Enfin, on a sélectionné quelques délégataires pour pouvoir travailler. Des délégataires assez significatifs, Paris, Lyon, oui. Grenoble.
Il y en a combien en tout ?
Il y en a 115 en France. Enfin, là, dans mon équipe métier, il y en a 10. C'est déjà un bon oui. groupe.
Oui, parce qu'il représente finalement, c'est un bon échantillon, mais de ce qui va se faire ensuite à l'échelle.
Tout à fait. Mais c'est vraiment pour permettre un travail de l'équipe métier, parce qu'à 115, c'est quand même un peu plus difficile. Oui. Il faut savoir que vraiment, c'est 115 modes de fonctionnement. Donc, c'est un peu compliqué. C'est comme si on nous demandait de faire 115 modules à la fois. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de récupérer déjà tous les besoins qui nous sont remontés, de mettre un peu de cohérence, de trouver des fonctionnements qui pourraient être similaires, enfin voilà.
Oui. Est-ce que vous avez un exemple, justement, de ce qui est demandé de manière peut-être prioritaire entre voilà, Paris, Lyon, des choses qui sont un peu communes ?
Ce qui est différent, c'est souvent le type d'aide. Vous avez des délégataires qui proposent des aides au forfait, par exemple, par surface utile, et vous avez d'autres qui vont plutôt calculer des ratios, des pourcentages. Enfin voilà, donc c'est vraiment. Eux, ils demanderaient davantage une mise à disposition d'une calculette avec un certain nombre de paramètres, une configuration qu'ils auraient propre, avec un règlement de fonctionnement de leurs aides qui est vraiment spécifique. Et derrière, ils vont vouloir paramétrer en conséquence le module tel qu'on va le proposer.
D'accord.
Donc là, on est vraiment dans la phase construction des besoins. On pense finir, on a déjà organisé 2 ateliers, il y en a encore un en construction. D'ici début novembre, on va vraiment commencer à développer avec une équipe dédiée un module qu'on va pouvoir leur proposer. Il sera toujours, bien sûr, en mode agile, comme je disais, donc en amélioration continue, à voir comment il va s'imbriquer par la suite dans le module SIAP Cœur. En
fait. On l'entend, Nadia, à travers ce que vous dites et ce que disait également Benoît, mode agile, ça veut dire aussi voilà, des allers-retours continus. Aujourd'hui, ces systèmes d'information, ils ne sont pas figés. Ce n'est pas gravé dans le marbre. On va pouvoir, de manière continue, améliorer le produit et surtout faire face aux demandes, aux besoins, voilà, de manière itérative, pour que ça colle exactement à ce qui se passe sur le terrain. Benoît Chantoine.
Oui, absolument. À la fois, d'ailleurs, ce côté prendre en compte, et puis aussi se nourrir pour construire du retour des utilisateurs. Nadia parlait des ateliers, c'est-à-dire qu'on essaye aussi de ne plus faire des SI en chambre, mais on propose des solutions, on avance. C'est un peu la Startup Nation, mais on essaye vraiment de répondre d'abord à la problématique des utilisateurs,
aux besoins
des utilisateurs, avant de répondre aux besoins de l'État central qui est parfois un peu déconnecté des manières de faire locales.
Bon, c'est pas mal, j'ai l'impression que vous nous parlez de décentralisation, on en parle beaucoup, vous le faites de manière pratique. Christine Bordier.
Je voulais juste rappeler que le SIAP est vraiment conçu dans un esprit de plateforme, c'est-à-dire qu'on a des modules, on en a déjà 2 en fait, on a un module financement, donc qui va gérer toute l'instruction du financement du logement social. Et il y a aussi un module conventionnement qui est déjà branché sur le SIAP, donc qui est justement issu d'une start-up qui a démarré avant la mise en service du SIAP. Et l'idée, c'est de rajouter des modules au fur et à mesure, le module délégataire.
D'accord.
Et puis de permettre aussi l'interconnexion au SIAP des autres logiciels de partenaires. Donc pour ça, on travaille sur une interconnexion qui va servir à la fois pour les délégataires et pour que les bailleurs puissent venir sur le SIAP rechercher la donnée dont ils ont besoin ou nous fournir la donnée qui va pouvoir alimenter les bases de données du SIAP. Et avoir une vision d'ensemble de ce sujet logement social.
D'accord. Sur la start-up là, que vous mentionniez, c'était de l'intrapreneuriat ou c'est quelque chose qui a été absorbé? Comment s'est passé?
C'était de l'intrapreneuriat. C'était le Apilos qui était venu l'année dernière présenter ses sujets qui ont été intégrés. Et donc là, on est dans une phase où je ne sais plus trop où on en est. J'avoue, on est dans une phase d'intégration du SI qui est une brique à part entière et un sujet à part entière du SIAP, puisque pour les bailleurs, finalement, l'agrément est tout aussi essentiel que le conventionnement et on est vraiment dans cette démarche d'intégration de modules.
Ça va rester une brique à part entière. Après, c'est plus le mode de financement qui va changer. C'était une start-up Betagouf, ça va devenir une start-up interne au ministère, un produit numérique du ministère. Voilà.
D'accord. Bah, comme quoi, il y a des belles réussites aussi sur, faut le dire, des gens qui viennent, j'allais dire, du Serail, du coup, qui connaissent, qui sont faits vraiment de ces problématiques. Nadia Ibrahim, juste sur on en a parlé brièvement, les prochaines étapes, ça va être quoi? Est-ce que, on imagine une longue to-do list, toujours. Quels sont les chantiers prioritaires, là, qui vont, les développements futurs?
Donc, l'objectif, c'est le troisième atelier qui va vraiment recadrer davantage ce qui a pu remonter, en sachant que vraiment il y a ce jeu aller-retour avec l'équipe métier pour préciser le besoin, pour être sûr qu'on a bien compris en fait ce qui nous a été remonté. Et donc derrière, on va construire, de jargonner, des user stories, donc en mode agile pour vraiment permettre aux développeurs, pour permettre aux développeurs de construire en fait quelque chose. Et donc troisième atelier, et derrière avec un MVP, donc un minimum vital product qu'on va proposer dès avril et qui devrait être opérationnel fin premier semestre 2024.
D'accord.
Donc c'est vraiment le plan de charge tel qu'on l'a envisagé. J'espère qu'on va pouvoir s'y tenir.
C'est intéressant parce qu'on est vraiment dans le jargon de la start-up. On sent que les projets vont vite évoluer. Et puis, c'est vivifiant aussi d'avoir ce mode très collaboratif, finalement. On précise aussi ce qui n'est pas évident. C'est vrai qu'entre des développeurs, parce que tout ça, finalement, est numérique, des développeurs qui vont coder, donc qui savent comment faire, et le métier en soi, il faut que tout le monde communique et qu'on arrive à communiquer sur la même base. Parce que sinon... Oui. Il y a une petite blague sur les développeurs, on demande un camion de pompier, on est une brouette ou l'inverse. Hein. Benoît Chantoiseau, justement sur ces futurs développements, la feuille de route ou le calendrier prévisionnel, c'est quoi?
À terme, à moyen et long terme, la feuille de route, c'est toujours dans ce principe de, dites-le nous une fois, d'aller s'interconnecter avec les systèmes d'information, avec les logiciels des bailleurs, pour s'assurer qu'on a une cohérence d'abord. Je pense qu'ensuite, un gros sujet qui est peut-être anecdotique, mais qui est, je pense, très important pour les bailleurs, c'est l'interconnexion avec la Banque des Territoires, c'est-à-dire finalement la transmission des éléments, des pièces jointes que les bailleurs nous envoient pour avoir l'autorisation et qui sont ensuite aujourd'hui redemandés par la Banque des Territoires pour fournir les prêts. On se dit qu'il y a quand même tout à gagner à ce que cette transmission se fasse directement à la Banque des Territoires, ce qui doit permettre aussi aux bailleurs, finalement, quand ils viennent voir la Banque des Territoires, demander un prêt, que
l'historique, ce qui a été fait.
Avoir l'historique, avoir l'opération, avoir directement toutes les pièces jointes, ne pas redéposer tout ça. Donc, à moyen terme, c'est vraiment. Enfin, je dis à moyen terme, mais en fait, c'est des choses qu'on espère voir avancer assez vite, mais c'est vraiment tout ce chantier d'interconnexion avec les SI, des acteurs qui produisent. Et puis, je pense aussi, alors pour le coup, peut-être à plus long terme, on a aussi ce sujet d'interconnexion de nos bases, des agréments, des autorisations avec le reste de la vie du logement social, c'est-à-dire les attributions, c'est-à-dire les sujets de rénovation du logement. Je crois que l'idée qu'il faut essayer de viser collectivement, c'est de passer à... aujourd'hui, on est sur la ligne de vie du du l'agrément d'une opération à passer vraiment à la ligne de vie d'un logement, depuis sa conception, sa programmation par le bailleur, jusqu'à son agrément, et puis ensuite jusqu'à son occupation, et puis ensuite jusqu'à sa rénovation, jusqu'à éventuellement sa vente aux occupants, sa démolition, sa reconstitution. On sait que demain les logements doivent un peu plus bouger et être moins figés. C'est les sujets, c'est des beaux sujets, ça nécessite beaucoup de discussions avec l'ensemble des acteurs, l'ensemble des maîtrises d'ouvrage qui gèrent toutes ces bases et qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs métiers derrière. Mais c'est vraiment ce vers quoi on veut aller. Finalement, c'est une base logement qui permettrait de suivre l'intégralité de la vie d'un logement. C'est un gros sujet, mais c'est ambitieux, mais on veut y aller.
Et oui, dans un univers où on a de plus en plus de data, l'important c'est de la faire communiquer, de la réunir dans la même base. Hein, Christine, c'est vrai, Christine Bordet, c'est vraiment le Graal d'avoir même un cycle de vie du bâtiment et en temps réel pratiquement.
Tout à fait, l'accès à la data est vraiment important. Et justement, à plus court terme, hein, d'ici la fin d'année, on va avoir un nouveau module aussi qui va s'appeler InfoSIAP, donc qui va permettre d'accéder à la visualisation des données du SIAP.
Oui.
Pour l'ensemble des acteurs et avoir ce volet décisionnel. Le SIAP ne sera pas qu'un outil d'instruction, mais aussi un outil d'accès à la donnée et de visualisation des tableaux de bord et de synthèse sur la donnée.
Justement, pour ceux qui nous écoutent, qui souhaiteraient avoir plus d'informations pour les accès, voilà comment on fait aujourd'hui, pratique, de manière très concrète.
De manière très concrète, on tape l'adresse du site siap.logement.gouv.fr.
Voilà.
Si on n'a pas déjà un compte Cerber, donc un compte qui permet d'accéder aux applications du ministère...
Oui, c'est quand même pas ouvert à tout le monde, on va quand même préciser.
On peut demander l'accès directement en tapant l'adresse. On arrive sur le portail d'authentification qui s'appelle Cerber. Et on rentre son numéro sirène si on est une entreprise, où on rentre ses identifiants quand on est un service de l'État, et ça nous crée le compte. Et ensuite, il y a des administrateurs qui vont aller valider, cette personne est bien de telle entreprise, donc elle peut accéder au SIAP.
Ouais, il y a de validation, évidemment.
Elle poursuit son parcours
pour avoir l'ensemble des informations. Nadia, sur ces... justement, il y a l'enjeu aussi de sécurité. Bien évidemment, on imagine que tout ça est très sécurisé. Il faut aussi contrôler que les bonnes personnes y accèdent.
Mais complètement. Nous, on n'est pas encore à cette étape-là, mais effectivement, la sécurité de la donnée, c'est un enjeu majeur. Et par ailleurs, ce qui est aussi important, c'est vraiment l'intérêt du reporting qui vraiment revêt une importance capitale pour tous les acteurs. Ils ont besoin d'outils de pilotage et on pense qu'avec InfoSIAP, on va pouvoir leur proposer un outil qui va leur permettre de suivre au quotidien les opérations qu'ils instruisent, qu'ils livrent, etc.
Voilà, connaître tout le cycle de vie, les attributions, les rénovations, et puis pouvoir bien communiquer, pouvoir s'y retrouver dans cette donnée qui va être triée. C'est tout l'enjeu de ce nouveau système d'information d'aide à la pierre. Merci, messieurs, dames, c'était très clair. Mais on remercie nos experts, Benoît Chantoiseau, Christine Bordier et Nadia Haïd-Braham. Merci et à très bientôt sur Radio Territoria.
Merci à vous.
Et vivez le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, depuis le stand du gouvernement, en partenariat avec Radio Territoria.